France Inter, franceinter.com.
C'est Au-delà de mon amour, donc votre magazine de nature et d'environnement, une émission qui empêche de polluer et de réchauffer en rond, en tout cas qui essaye, avec aujourd'hui Arnaud Caillé, Loïc Asselot à la technique, et assisté de Sophie Ledoré, de Jean-Christophe Pinaza. C'est Xavier Pestugia qui réalise cette émission. Mais nous allons commencer par une petite humeur de saison, car dans les montagnes, les marmottes roupillent déjà, c'est l'automne. Dans les villes modernes, les feuilles mortes ne se ramassent plus à la pelle, les sanglots longs des soufflettes à moteur blessent nos tympans d'une langueur monotone. Alors je vous pose la question, ce mois de novembre qui ne sert qu'à payer des impôts, acheter des chrysanthèmes, nourrir des luttes fratricides au congrès de Reims et alimenter nos petites dépression saisonnière liée au manque de lumière. Est-ce que ce genre de mois est bien utile? C'est la question que je posais aussi dans le Terre sauvage du même mois de novembre. Supprimer le mois de novembre serait une réforme consensuelle. Nous irions directement en 45 jours du mois d'octobre à décembre en 45 jours, sans passer par la case frimaire, comme on disait à l'époque du calendrier républicain. Froid? Moi, jamais, en tout cas jamais plus, c'est ce que nous explique l'Arctique, qui se réchauffe à grande vitesse. Le pôle Nord, on le sait, s'ébroue et vogue les icebergs. Il n'y a qu'à voir l'exposition Tara, qui est tout à fait intéressante sur les quais de la Seine. Plus la Terre est obèse de richesses, d'obscénités, de matières grasses et de famines réunies, et surtout de manque de sens et de repères, et bien plus ça chauffe, donc la glace fond. Cette poussée de fièvre climatique, à votre avis, docteur, ce serait pas la planète qui nous ferait une petite indigestion de richesses inutiles? Allez. Pendant que sa banquise se désagrège, eh bien, l'ours blanc se confectionne un album de photos souvenirs. Oui, sa reconversion, vous savez, en ours des Pyrénées, au sort peu enviable, étant pour le moins aléatoire, eh bien, il s'apprête à demander son statut de réfugié climatique chez Picard. Le Groenland, vous voyez à peu près ce que c'est. Donc, c'est un glaçon qui est grand comme 4 fois la France, qui est posé sur un plateau et qui ne demande qu'à redevenir le vert pays cher au cœur des Vikings. Eh bien, lui aussi fond plus vite que prévu. Dans l'île d'Ellesmere, par exemple, on a vu le mercure monter à 20 degrés en été, alors que d'habitude, on atteignait les 7-8 degrés. Et là, on sortait les maillots de bain. Ah oui, franchement. Si je fonds entièrement, écoutez, foie de Groenland, moi, je vous fais monter tout seul le niveau des mers à 6-7 mètres. Alors rassurez-vous, ça ne se fera pas en 5 ans, mais vous faites bien d'apprendre à vos enfants à nager. Ah, suis-je bête, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est le passage du Nord-Est, donc qui est ouvert, et pas seulement le dimanche, mais non, il y a aussi celui du Nord-Ouest qui va suivre, et on pourra envoyer donc des brise-glaces à la casse et organiser un vent des globes autour du pôle Nord, sans oublier le trésor des pétroliers, des gaziers qui seront donc le futur émirat du Grand Nord, dont l'exploitation ne fera rien d'autre qu'augmenter la machine à CO2, donc tout va bien. Bref, fonte des glaciers, inertie de la machine climatique, fringale d'énergie planétaire, la politique de l'autruche a peut-être ses limites, surtout quand le grand rêve de l'humanité sera réalisé et que nous serons tous enfin des Américains. Alors après moi, la fonte et le déluge, mais jamais sans ma voiture. En novembre, je fais ce qu'il me plaît, comme les 11 autres mois. Ce sera bientôt ventose. Et moi, je m'en vais au vent mauvais. Bientôt 7 milliards d'humains. Et moi, et moi, et moi. Ainsi vont les hommes futiles et grandioses. Alors, au menu de cette journée, eh bien, quand même des gens qui font, oui, parce que je vous le disais, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, en France, en Europe, dans les collectivités, dans les entreprises, un petit peu partout, et puis évidemment au quotidien, hein, et là, toutes les idées, évidemment, sont les bienvenues. Donc, dans quelques instants, on va retrouver quand même Jean-Marie Pelt pour débuter l'émission, qui va nous raconter ce qui se passe dans le sol, sous les feuilles mortes. Et puis, alors après, dans le désordre le plus complet, je vous emmènerai à Clermont-Ferrand, je vous parlerai de bonus-malus, oui, mais sur l'eau, hein, tout à fait intéressant dans une commune du Tarn qui a lancé cela. Nous irons aussi parler de déchets au Vietnam, on parlera d'économie sociale, on vous montrera aussi comment construire un pélibus, comment installer un pélibus, ça veut simplement dire de marcher à pied avec ses enfants pour les emmener à l'école. Et donc tout ceci fait qu'on va essayer de s'avancer vers un monde un petit peu plus, comment dire, un peu plus apaisé. Ouais, ça nous fera du bien. Et de la musique, c'est pas mal non plus. Allez, Emmanuel Chupin, ce que je dis, ce premier disque. Eh bien, nous y sommes. Jean-Marie Pelt, arrête de swinguer. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Vous allez bien ?
Très bien.
On va faire un petit tour en forêt, on va parler de la vie animale de la forêt. On va pas parler des chevreuils, des sangliers, des pumas, des lions qui peuplent nos forêts françaises, mais on va parler plutôt de ce qui se passe dans le sol et sur le sol.
Oui, parce que dans une forêt, la vie végétale se montre. On voit les arbres, on voit les plantes. Ouais. Et la vie animale se cache. Quand on arrive, les chevreuils se tirent, les sangliers se tirent, ils s'en vont, c'est rare qu'ils chargent.
Ils sont tirés d'ailleurs.
Et ils sont tirés aussi. Et puis il y a alors dans le sol une vie animale extrêmement importante, puisque on estime que les seuls vers de terre dans une forêt représentent en moyenne une tonne de matière vivante à l'hectare. Il y a une tonne de vers de terre à l'hectare. Ouais. C'est un chiffre qui donne à réfléchir.
Ce sont des laboureurs et des décompositeurs, des décomposeurs.
Des décomposeurs, oui, c'est... De
litière. Ils font peut-être de la musique aussi, mais enfin non, c'est des décomposeurs.
Des décomposeurs de litière. Et on a calculé que dans un mètre carré de sol forestier, c'est pas beaucoup, un mètre carré, il y a 200 000 animaux visibles à l'œil nu ou à la loupe. Ce qui fait que sous une chaussure de taille 43, il y en a 7 000, pour être précis. Oui. Donc on écrase beaucoup quand on marche dans une forêt.
Et nos adolescents qui font du 45 ou 47, c'est encore plus.
C'est encore plus, absolument. Et dans ce même mètre carré, on estime qu'il y a en fait 1000 espèces d'animaux différents. Alors ce sont des invertébrés, ce n'est pas des chevreuils qu'il y a sous les souliers, naturellement.
Assurez-nous.
Ce sont des vers, des mollusques, des acariens, des araignées, des collemboles qui sont des êtres très anciens qui existaient déjà à l'ère primaire. Et alors ce qui est très curieux, c'est que les naturalistes ont ignoré tout ça jusqu'à assez récemment en fait. Au XVIIIe siècle, les Linné, les Buffon, ça ne les intéressait pas du tout. Et Buffon a eu cette phrase, il a dit « Il ne faut pas qu'une mouche occupe plus de place dans votre tête qu'elle en occupe dans la nature ». Il n'avait pas bien vu, en effet, que les mouches étaient utiles, mais c'est à partir du 19e siècle qu'on a commencé à regarder d'un peu plus près les petites bêtes, et vraiment, la vie des petites bêtes du sol, c'est le 20e siècle, donc c'est récent. On a découvert que le sol est vivant. Avant, on croyait que c'était des cailloux. La notion d'humus, tout ça, c'est très récent dans la science. Les paysans, eux, le savaient déjà, puisqu'ils mettaient du fumier. Mais dans la science, ce sont des choses tout à fait récentes. Alors, quel boulot ils font, ces animaux? Quel boulot ils font? Ce sont les soutiers, en quelque sorte, du sous-sol. Ils transforment les litières de feuilles mortes en matières minérales qui seront assimilables par les racines, donc le cycle biologique et écologique. Comment ils y prennent? Ils déchirent les débris de tissus, ils les digèrent, ils les mélangent à la terre et les champignons et les bactéries vont achever le travail. D'accord. Et les matières organiques deviennent alors des matières minérales.
Alors, ils se nourrissent aussi des cadavres.
Alors, ils se nourrissent aussi des cadavres, naturellement. Ce sont les nécrophores, en particulier les scarabées, les mille-pattes, les cloportes. J'aime bien les cloportes.
Oui.
Les limaces qui mangent les cadavres. Donc, ils transforment toute cette matière organique de la saison précédente pour en faire des aliments pour la saison suivante. Et les paysans du Moyen-Âge savaient déjà ça. Ils allaient dans les forêts et ils récoltaient, faute de fumier quand ils n'avaient pas assez de bêtes, des feuilles qu'ils mettaient dans les sillons. Oui. C'était pas très bien pour la forêt, parce qu'ils appauvrissaient la forêt en matière organique. Et la forêt n'avait donc plus assez de nutriments. Mais c'était très bien, évidemment, pour l'agriculture, parce que ça se transformait dans les sillons en humus, et que l'humus, c'est pas seulement, comme on le croit, un engrais, mais c'est aussi un piège qui conserve les matières minérales qui vont être utilisées par les racines des plantes.
Ah, c'est bien de le rappeler, ça.
C'est important. Sinon, l'érosion les emmène, et tout part dans les rivières. Et l'humus est une sorte de capteur, c'est une éponge qui capte et qui garde les matières organiques. Et que ensuite, les petits champignons et les racines des arbres, ensemble d'ailleurs, vont pouvoir capter pour que l'arbre puisse grossir.
Et donc, en fait, on va dire que ces feuilles mortes donc, qui forment la litière, c'est la matière première de toutes ces transformations. Alors.
Absolument, tout part de la litière et qui est l'aliment. C'est l'aliment de la forêt. L'aliment devient le point de départ d'un nouveau cycle.
Et puis la forêt, ça sert aussi à nourrir les animaux.
Oui, alors on emmenait autrefois dans les forêts des cochons, ça s'appelait la glandée, c'était un droit médiéval qui a duré jusqu'à pas très très longtemps, et les cochons mangeaient des glands de chêne, parce que c'était surtout des forêts de chêne, mais aussi des faines de hêtre. C'était une nourriture très appréciée, pratiquée encore aujourd'hui en Espagne.
C'est pour ça que lorsqu'on traite les gens de glandeurs, on dit « qu'est-ce que tu glandes ?» Non, il y a une activité derrière.
Il y a une activité derrière, absolument. Et en Espagne, on a planté des chênes sur des pâturages pour que justement les animaux puissent manger les glands.
Et puis il y a aussi les champignons.
Oui, alors les champignons, eux, sont très utiles parce qu'ils s'accommodent avec les racines des arbres et ils transmettent les aliments aux racines des arbres. Ce sont des médiateurs.
On a parlé des mycorhizes.
C'est ça les mycorhizes.
C'est ça les mycorhizes.
Bien sûr, c'est la symbiose qui se fait entre le champignon et l'arbre. Et le champignon, il faut qu'il se reproduise. Oui. Alors pour se reproduire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un chapeau. Et le chapeau, c'est ce que nous appelons, nous, le champignon. Mais en fait, le champignon, c'est des filaments dans le sol, dont le chapeau est l'organe reproducteur qui fabrique les spores. Et alors, évidemment, dans la forêt, on va récolter les champignons. Et quand on récolte les champignons, il faut faire attention. Et quand on n'est pas sûr, on ne les prend pas.
Ça, c'est le pharmacien qui vous parle.
Oui, c'est le pharmacien qui nous parle. On étudie les champignons dans les facs de pharma, si bien qu'en principe, les pharmaciens connaissent ces champignons. Oui. Ils peuvent vous donner des tuyaux quand vous ne savez pas très bien comment vous y prendre. Il y a plus simple, c'est quand on ne sait pas, il ne faut pas. Oui. C'est ça la règle, il faut être prudent.
En tout cas, ce que l'on voit, c'est que cette vie souterraine dont vous nous disiez, qui a été découverte assez récemment hein, par les scientifiques, c'est une fois de plus à la base de tout.
C'est absolument à la base de tout, et les paysans le savent depuis très très longtemps. Ouais. Ici, on a un savoir traditionnel qui est très antérieur au savoir scientifique, comme dans bien des domaines. L'utilisation de la fumure, des fumiers. Dans la Bible, on raconte que les troupeaux d'Abraham vont sur les champs des sédentaires quand les agriculteurs ont recueilli leur récolte, parce qu'ils vont fumer les champs. Donc les nomades vont rendre service aux sédentaires. Et c'est toujours l'idée de la fumure, qui est connue depuis très 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 longtemps, et dont les efficacités et les effets n'ont été mis en forme par la science que depuis 150 ans, pas plus.
Et un excès d'agrochimie va totalement perturber ces mouvements de sol.
Oui, et peut les tuer, et oui. Peut tuer l'humus, peut tuer toutes ces bestioles, peut appauvrir les sols, et faire que, peut-être plus tard, mais enfin, touchons du bois, espérons que ça n'arrivera pas, les sols soient beaucoup moins fertiles qu'ils ne l'étaient avant les dites fumures.
Merci Jean-Marie Pelt. On se retrouve la semaine prochaine. Nous quitterons la forêt pour un autre lieu. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis. Au revoir à tous.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer. Dans mon jardin d'hiver, je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre. Mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, voir un latte cœur. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut.
C'est une recette du pays. Ça s'appelle la fougne.
La fougne.
Et c'est quoi qu'il y a dedans là?
C'est fait avec tous les restes de fromage de l'année. Puis il y a les coins aussi.
C'est quoi les petits trucs blancs maintenant?
Ça, c'est des verres. Ben oui, comme ça, il y a la viande aussi.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Voilà, avec Xavier Pissoudia. On adore ce genre, évidemment, de petits extraits de films que vous aurez reconnus. Il n'y a strictement rien à gagner. Alors, on va quitter le climat natal, on va dire, d'Henri Salvador pour aller du côté de Clermont-Ferrand. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas tellement de rapports, bien sûr, à part qu'il y a des initiatives positives tout à fait intéressantes. Et donc, Clermont-Ferrand capte ses eaux dans le Val d'Allier. Et donc là, je vais me tourner vers Yves Jay, qui est le président du Conservatoire des sites naturels d'Auvergne, pour vous demander, en fait, quel est le rapport entre la protection des eaux de la ville de Clermont-Ferrand et la protection d'un milieu naturel.
Quand vous préservez une forêt alluviale, par exemple, intéressé que vous êtes à préserver la biodiversité qu'elle contient, cette biodiversité, elle va s'appuyer, bien entendu, sur la rivière, mais elle va s'appuyer également sur le rôle que va pouvoir jouer la forêt alluviale dans la dépollution de la nappe aquatique, de la nappe phréatique.
Donc ça fait partie vraiment de ce qu'on appelle les services rendus gratuitement par la nature.
Exactement. On oublie tous les services que peuvent rendre à l'humanité la nature en général. Donc c'est la dépollution des sols, la détoxification des sols, dépollution des eaux, c'est le service rendu par les insectes à la pollinisation des arbres fruitiers. C'est tout ce service que, en préservant la biodiversité, vous rendez à l'humanité. Et ça, on l'oublie.
Alors, Monique Bonnet, vous êtes adjointe au maire de Clermont-Ferrand, vous êtes chargée de l'eau et de l'assainissement, et vous avez passé donc un accord, une convention entre ce conservatoire des espaces et paysages d'Auvergne et puis la ville de Clermont-Ferrand. Quel est l'intérêt de chacun ?
Alors, notre intérêt premier, c'est que nous gérons la distribution et la production de l'eau en direct, en régime municipal, et que nous avons sur les bords de l'Allier 71 puits de captage qui servent à l'alimentation de plus de la moitié de la ville. Ouais. 70% pratiquement de la production vient de l'Allier. Et ces puits de captage nous permettent, parce que nous avons passé cette convention, de produire de l'eau et de la distribuer pratiquement sans la traiter.
D'accord.
Tout ça parce que le travail que fait le conservatoire pour conserver le milieu naturel en très bon état permet, étant donné que notre eau, nous la prenons dans les nappes phréatiques de l'Allier, de récupérer de l'eau qui est déjà filtrée et qui est pratiquement bonne à la consommation.
Yves Jay, concrètement, pour que l'eau soit saine, pour qu'elle soit bonne et qu'elle puisse être captée par la ville de Clermont-Ferrand, qu'est-ce qu'on fait ?
Oh bien, on essaye de laisser faire la nature, justement. Et c'est un point important. C'est-à-dire qu'on développe des forêts alluviales qui vont filtrer les nitrates, les pesticides. On va développer entre les forêts et la rivière des prairies. Donc il faut pouvoir contracter avec des éleveurs. Demander à ces éleveurs qu'ils ne mettent pas d'intrants sur ces prairies et qu'ils ne mettent pas de pesticides, d'herbicides. On va essayer de demander aux communes, si vous voulez, d'avoir une gestion de ces forêts, parce que ce sont des forêts communales.
Pourquoi c'est vraiment innovant, ça, en France ? Parce qu'on a quand même très peu d'exemples. Hein. Quand on parle des problèmes de l'eau, on sait qu'il y a différents usagers, il y a souvent des conflits. Mais là, ça marche, il faut le dire.
Alors, ça marche tout d'abord parce que la ville de Clermont, qui est propriétaire donc, d'un nombre d'hectares important sur ce secteur, était confrontée à plusieurs problèmes. La préservation, bien sûr, du milieu naturel autant que faire se peut. En même temps, des paysans qui souhaitaient exploiter la terre. Nous devions aussi préserver nos champs captants et nos puits de captage puisque la loi nous y oblige et c'est bien normal. Et on avait aussi une forte pression, puisqu'on est sur les berges de l'Allier, de la population qui souhaitait aussi fréquenter ces lieux pour profiter de l'espace naturel qu'ils représentent. Et donc la convention qui nous lie avec le conservatoire permet de faire vivre tout ça sur notre territoire, le territoire dont nous sommes propriétaires et qui est très très important pour l'alimentation en eau de la ville, mais qui en même temps permet aux promeneurs de découvrir de la faune et de la flore, permet à la nature de se développer et permet donc à nous, ville de Clermont, d'avoir une eau de très bonne qualité, sans la traiter et donc très peu chère, puisque c'est la moins chère de France.
Voilà, donc démonstration de la combinaison protection de ressources en eau potable et la protection d'un espace fluvial donc de qualité. Il y avait un peu de monde derrière, vous avez compris, on n'était pas en pleine nature, ben non évidemment, parce que en fait, je tiens à préciser que l'agence de l'eau Loire-Bretagne a soutenu, a encouragé cette action, et donc la ville de Clermont-Ferrand et cet espace, ce conservatoire des sites naturels d'Auvergne ont donc reçu un prix des meilleures initiatives sur l'eau. Et on n'oublie jamais que derrière l'eau du robinet, ben, il coule une rivière, oui. Il faut vraiment avoir ça en tête. La ville de Munich avait compris ça depuis très très longtemps, puisque donc elle a fait passer, elle, en bio ses agriculteurs. Ça n'a pas été sans mal, ça a mis du temps, ça a mis entre 10 et 20 ans. Mais aujourd'hui, effectivement, ça fonctionne très bien. Alors, on va rester dans le domaine de l'eau, et on va aller maintenant non loin d'Albi, dans le département du Tarn, pour rejoindre Gérard Poujade, qui est le maire d'une commune qui s'appelle Le Séquestre, 1600 habitants, pour une autre initiative. Gérard Poujade, bonjour.
Bonjour Denis.
Gérard, vous êtes le maire de cette commune et vous avez eu une idée parce que face à la hausse générale du prix de l'eau, eh bien votre commune du Tarn innove et décide de mettre en place une tarification progressive de l'eau. Ça, c'est nouveau, j'allais dire, dans les tuyaux. De quoi s'agit-il exactement ?
En fait, dans les tuyaux, ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait disparaître l'abonnement dans un premier temps, parce qu'en fait, la gestion de l'eau rend l'eau plus chère quand on est un petit consommateur. Et le système d'abonnement plus une facturation au mètre cube fait que plus on consomme de l'eau, moins on est économe et plus le prix au mètre cube est faible. Donc on a, dans un premier temps, supprimé l'abonnement. Et ensuite, dans un deuxième temps, on a mis une graduation qui fait que plus on consomme, plus le prix du mètre cube augmente.
D'accord. Donc on va dire que c'est une révolution qui est à la fois sociale et environnementale.
Et économique. Parce que, social d'abord, parce que ce sont les gens qui sont les moins fortunés qui ont vu leur facture baisser le plus, ça c'est le point numéro un. Environnemental, parce que plus on consomme, plus c'est cher, et donc ça pousse les gens à mettre en place des dispositifs pour économiser l'eau. Et puis surtout, c'est économiquement viable, parce que c'est la part communale sur laquelle nous avons appliqué cette tarification progressive, et le budget assainissement reste exactement le même, donc c'est-à-dire que c'est une mesure qui est économiquement viable.
C'est une espèce de bonus-malus qui est appliqué à la consommation d'eau.
Exactement, à ceci près que par rapport au bonus-malus existant au niveau national, comme c'est sur un budget, il est équilibré chaque année. Donc il n'y a pas un déficit comme ça peut être le cas pour les bonus-malus appliqués à l'automobile. Celui-là, il est équilibré chaque année.
Et aujourd'hui, les habitants du Séquestre jouent le jeu, donc vous voyez bien une diminution ?
Alors non seulement on voit une diminution, mais ensuite on les incite à faire en sorte qu'ils consomment moins. On a des actions en direction de l'école, du centre de loisirs. Et pour marquer le coup cette année, tous les foyers qui vont venir aux vœux, organisés par la mairie, on va leur offrir un aérateur pour qu'ils l'installent chez eux et qu'ils aient envie de faire ça sur l'ensemble des robinets de leur foyer.
Ce qui veut dire que lorsque l'on a une piscine ou bien que l'on arrosait, on va dire, sans compter son jardin, bah maintenant on va regarder les choses un petit peu différemment. Ça va vraiment inciter à faire des économies d'eau un peu partout.
L'enjeu, c'est de faire des économies d'eau, effectivement. L'enjeu également, c'est de faire en sorte que ceux qui sont sur des revenus qui sont les plus faibles aient une facture d'eau qui diminue.
Vous êtes les seuls ou bien vous avez fait des petits maintenant ?
Alors, on fait beaucoup de petits parce que beaucoup de collectivités un petit peu partout, en France et même à l'étranger, nous appellent, nous contactent pour voir comment organiser ça, pour voir comment avoir un modèle de délibération qui permet de faire ça.
Lorsque l'on prend un exemple de prix, Gérard Poujade, qu'est-ce que l'on peut dire par exemple ? Je ne sais pas si je consomme 100 ou 150 mètres cubes par an, enfin, quelle va être la différence ?
Si vous consommez entre 100 et 150 mètres cubes, vous êtes dans la tranche où ça ne bouge pas. Mmh. Si vous êtes dans la tranche qui va consommer moins de 80 mètres cubes, vous allez avoir une facture d'eau qui va baisser entre 2 et 5%. Et si vous êtes dans une tranche qui consomme au-delà de 250 mètres cubes, vous allez avoir une hausse qui est entre 2 et 4%.
D'accord. Et c'est donc quand même assez important parce qu'on va dire que le mètre cube, si on est dans un système classique, ça va de 3 à 7 euros hein, pour être...
À peu près.
Bon, bah écoutez, merci à vous Gérard Poujade et puis à très bientôt. Et en tout cas, bravo pour cette initiative.
Alors, merci.
Un peu petite précision, et ça évidemment c'est partie des gestes écologiques qui ne coûtent pas très cher, d'installer un aérateur aussi bien sur votre robinet que sur votre pommeau de douche, c'est un peu le système Venturi comme on dit, et donc ça vous permet d'économiser en mélangeant davantage d'air avec de la pression, ça vous permet quand même d'économiser pas loin de 40% hein, sur une note d'eau. Oui, ça peut aller quand même jusque là. Une petite information aussi, le 26e Festival International du Film d'Environnement aura lieu du 19 au 25 novembre, où ça, en Ile-de-France, c'est la région Ile-de-France qui est à l'initiative depuis longtemps de ce festival, donc c'est au cinéma La Pagode. Information sur festivaldelenvironnement.com, et puis vous aurez une avant-première avec ce film dont vous allez entendre parler, j'imagine, du côté du mois de décembre, Les ailes pourpres, le mystère des flamants roses. Oui, on pourra y aller effectivement en famille. En Ile-de-France, c'est, les éco-activités, c'est quand même 55 000 emplois, donc c'est pas rien, et donc ça va faire des petits là aussi. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller carrément, avec 6 heures de décalage horaire, on va aller au Vietnam, donc 320 000 km². Il doit être un petit peu plus de 20 heures, et avant que Loïc Delamarche se dorme, eh bien on va d'abord lui dire bonjour. Loïc Delamarche, bonjour à vous.
Bonjour Denis.
Vous êtes à Da Lat. À quoi ressemble Da Lat au Vietnam ?
Alors Da Lat, c'est une ville de 200 000 habitants qui se situe à 300 km au nord de Saigon et à 110 km de la côte est, dans une région de haut plateau à 1500 mètres d'altitude.
Alors vous êtes un coordinateur de terrain pour un projet tout à fait intéressant. D'abord parce qu'il y a une démarche d'Ajada 21 dans cette commune de Da Lat. Et puis, il y a aussi donc tout un travail qui est fait sur les déchets. Vous travaillez en coopération avec les gens de l'ADEME. Donc, c'est vraiment une véritable coopération entre le Vietnam et la France. Cette ville est à la fois touristique et très agricole. Lorsque l'on regarde une poubelle à Da Lat, qu'est-ce qu'il y a dedans, par exemple ?
Alors la particularité des déchets à Da Lat, c'est qu'ils sont composés à 80% de matière organique. Mm-hmm. Très peu d'emballage, parce qu'il n'y a pas de supermarché, et puis c'est vraiment un commerce de proximité. Et il y a donc des possibilités de valorisation de cette matière organique pour produire du compost, qui peut être ensuite utilisé dans l'agriculture locale.
Est-ce que d'une façon générale, Loïc, les gens sont sensibilisés aux problèmes d'environnement, ou bien effectivement ça passe après beaucoup d'autres choses au Vietnam ?
C'est un problème assez récent pour les gens. Après, c'est vrai que pour les autorités de la ville de Da Lat, c'est un sujet préoccupant, dans la mesure où la ville, qui est aussi une ville très touristique, doit pouvoir garder son attractivité, et c'est pourquoi les services de la ville sont très préoccupés par ce problème des déchets.
Alors, en tant que coordinateur de terrain, vous faites bien sûr un état des lieux, vous regardez quelles sont donc les habitudes des uns et des autres. Qu'est-ce que vous allez faire ?
Ce qu'on voudrait faire, c'est sensibiliser la population locale sur les problématiques d'environnement et de développement durable. Alors on va commencer des actions de sensibilisation dans les écoles, sur la problématique des déchets notamment. On va essayer de mettre en place un système de sacs réutilisables en tissu. Ça nous permettra également d'associer dans ce projet les populations défavorisées pour la confection de ces sacs, sachant qu'il existe autour de Da Lat des ethnies minoritaires qui ont une activité traditionnelle de tissage. Et on essaye de voir comment on pourrait les intégrer à ce projet et ainsi créer des emplois.
Et la récupération de la matière avec le recyclage qui est derrière, on imagine bien que ça fait partie des petits métiers qui fonctionnent.
Le tri existe déjà en partie pour certaines matières. En fait, ce sont, comme bien souvent, les personnes les plus pauvres qui récupèrent ces matières et donc qui passent dans la rue. Alors ici, on les voit avec les paniers qu'on porte de part et d'autre sur l'épaule, là, avec la perche en bambou. Et ces personnes donc passent dans les rues avec un sifflet et récupèrent et rachètent parfois auprès de la population les matières recyclables.
Le gisement pour vous demain se trouve vraiment dans la matière organique qui est très peu utilisée ?
La part de matière organique est très importante dans les déchets, d'autant que la ville, qui a une activité agricole intense, produit également une grosse part de déchets agricoles.
Donc on peut penser plus tard, je ne sais pas comment, à faire du biogaz, évidemment à l'utiliser aussi comme amendement, enfin il y a quand même des possibilités très fortes.
Il y a des pistes comme ça. La ville a retenu et a un projet d'usine de compostage. En effet, le compostage comme mode de traitement des déchets est un procédé qui permet de maîtriser les impacts sanitaires et environnementaux et qui participe au développement d'une agriculture durable.
Alors ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est quand même toute la démarche de coopération entre les deux pays.
C'est ça, c'est un partenariat entre l'ADEME et la ville de Dalat pour, vous l'avez dit, aider la ville dans l'adoption d'un agenda 21, également pour aider à développer une coopération décentralisée entre Dalat et une ville française qui serait intéressée afin de renforcer la solidarité entre les villes du Nord et les villes du Sud en matière de gestion des ressources.
Merci à vous Loïc Delamarche, on vous laisse dormir et puis à très bientôt, on essaiera de suivre au fur et à mesure ce que vous faites vous là-bas. À très bientôt Loïc, au revoir.
D'accord, merci, au revoir.
Mon environnement, c'est comme tout, il faut commencer par des bonnes intentions. Les mettre en pratique, ça, c'est autre chose, hein.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
De voir le jour qui se lève en un si beau matin. De sentir si bon l'air du jardin. Au sortir d'un si beau rêve dont je ne sais plus la fin. Je me dis qu'aujourd'hui tout ira bien. À revoir enfin l'image où j'ai l'air de quelqu'un qui tout simplement n'a l'air de rien. À la fraîcheur de l'eau sur mon visage au creux des mains. Je me dis qu'aujourd'hui tout ira bien.
Sonne un peu Beatles, mais c'est drôlement bien, ça c'est William Scheller, donc tout ira bien et j'espère que vous êtes bien en écoutant France Inter, en écoutant CO2 Mon Amour, tout à fait tranquillement cet après-midi. Il fait pas très beau, hein. Oui, non mais ça on va pas pouvoir faire grand-chose de ce côté-là, je vous l'ai déjà dit, supprimons le mois de novembre. Alors on va passer maintenant à autre chose parce que dans ce monde merveilleux et incertain où nous sommes obligés de faire des télétons pour sauver les banques et savoir si elles sont fiables et compétentes alors que pendant des années elles n'ont pas arrêté de demander si on était malade, si ça allait bien, etc. pour nous filer un prêt. On va parler d'économie sociale. C'est un très gros mot, économie sociale. C'est incroyable. Bon, non, mais effectivement, derrière tout ça, il y a quand même une réalité qui est différente. Et on va rejoindre Gaël Loison. Gaël Loison est un des animateurs de Terre de Liens. Merci à nos amis de France Bleu Cotentin à Cherbourg donc, de l'accueillir. Gaël Loison, Terre de Liens, qu'est-ce que c'est ?
Terre de Liens, c'est d'abord une association de personnes qui ont décidé de se prendre en main pour installer de l'agriculture bio, résister à la disparition des terres qui sont artificialisées, qui sont urbanisées, et puis favoriser donc le développement des filières courtes en bio.
Et c'est pas rien parce qu'on a à peu près l'équivalent d'un département français qui file sous l'urbanisation tous les 9 ans, et puis on a quand même 35 000 fermes qui disparaissent chaque année. Donc si on veut maintenir des agriculteurs, il faut aussi faire quelque chose.
Exactement. Comme le système de l'installation en France fonctionne plutôt pour le système conventionnel, nous on a décidé d'essayer de proposer aux citoyens de se prendre en main solidairement, en investissant dans la terre pour installer en proximité nos paysans de famille, on pourrait dire.
Lorsque l'on parle de système conventionnel, ça veut dire qu'on privilégie la surface et donc plus on a d'hectares, plus on a de primes.
Voilà, exactement. Le moindre hectare de terre qui se rend disponible fait l'objet d'une grosse compétition. Chacun veut manger l'hectare qui vient et s'agrandir encore un peu plus, alors qu'il y a des systèmes viables à taille humaine, en filière courte, avec l'investissement des citoyens, des amapiens notamment, pour soutenir l'installation de jeunes, de moins jeunes, de pluriactivité aussi.
Et on rappelle que plus de 50% des produits bio en France sont importés, d'où effectivement l'intérêt de développer cette filière encore plus. Alors comment on fait concrètement, je veux dire, ce système-là, donc Terre de Liens, avec la garantie donc, de FinanSol, je disais que ça fait partie de l'économie solidaire, concrètement comment on peut faire les uns les autres?
On a monté ce qu'on appelle une foncière, la foncière Terre de Liens, qui est une société en commandite par action, c'est une société d'investissement, solidaire. On peut sortir une partie de ces économies qu'on confie un petit peu à l'aveuglette aux banques et dont on voit ce qu'elles font en ce moment avec,
bien sûr,
pour le mettre plutôt dans des projets qu'on identifie. Alors, l'idée, c'est qu'on se rend solidaire de quelqu'un qui veut s'installer localement, près de chez soi. On mobilise ses voisins, sa famille, et puis on dit, voilà, est-ce qu'on ne peut pas mettre une petite partie de nos économies dans ce projet et devenir ensemble, quelque part, entrepreneur solidaire pour soutenir une activité à côté de chez nous.
Alors, quels sont les exemples d'acquisition donc, de la foncière et les projets, on va dire, qui sont en cours d'installation, par exemple?
Eh bien, il y en a plusieurs, hein. On peut en citer quelques-unes. On ne va pas faire la liste à la Prévert, mais par exemple, on a 170 hectares dans le Lot, autour d'une ferme magnifique, un vieux patrimoine qui ferait bien des envieux pour des installations de résidence secondaire. Ben nous, on a décidé de donner un coup de main à cette famille qui va essayer de transmettre sa ferme. Et on l'a racheté, il y a un élevage caprin et ovin. Et donc il y a quelqu'un, une famille de jeunes qui va s'installer juste derrière. Terre de Liens, la foncière, est propriétaire des terres et va louer, avec un fermage à un coût très très réduit, les terres à ces jeunes, avec une clause environnementale dans le bail pour qu'ils exploitent en respectant la nature et les hommes qui vivent dessus.
Alors, évidemment, ça se fait partout. Je vois aussi qu'il y a des activités dans le Nord, où là, c'est céréales et maraîchage bio sur 8 hectares. Activités dans l'Aude, vignes, fruitiers, maraîchage bio. Dans les Alpes-Maritimes aussi, élevage bovin et production de bio. Ça bouge quand même pas mal, hein, tout ça.
Oui, on peut citer aussi plus près de chez moi, puisque je suis originaire de Basse-Normandie.
Ah bah oui.
Arnaud et Valérie Tomaszewski dans la Manche, qui ont réussi à mobiliser plus de 200 actionnaires pour racheter 25 hectares qui manquaient pour pouvoir s'installer et sauver une ferme d'un peu plus de 50 hectares en lait bio qui allait être là aussi mangée par les conventionnels qui les entourent.
On n'est pas dans le don, hein, loin de là. Donc c'est une part, donc on achète une action.
Voilà.
Simplement, bon, on sait qu'il n'y a pas une rémunération qui est prévue forcément les premières années. Hein.
Oui, nous on part du principe que l'argent, ça ne doit pas servir à faire de l'argent, ça doit soutenir l'économie réelle.
Ah, vous n'avez rien compris, vous. Hein.
Voilà, exactement. On marche complètement à contre-courant. Donc vous investissez votre part dans la foncière, vous la laissez 5 ans minimum, vous avez le une petite réduction fiscale puisqu'on est reconnu entreprise solidaire. On conseille de laisser plutôt 10 ans pour faciliter la gestion de la foncière. Et votre argent, alors vous avez la possibilité soit de la mettre dans la foncière et puis la foncière a en charge de soutenir un projet n'importe où en France, soit de dire moi je la mets dans la foncière mais je veux que ça vienne soutenir un projet dans ma région ou plus précisément encore un porteur de projet qu'on a clairement identifié.
Une action c'est combien Gaël Louédon?
Une action, c'est 100 euros. Avec 100 euros, on met 75 euros à l'achat de terre et 25 euros en réserve dans la foncière pour faciliter le remboursement de ceux qui voudront sortir de la foncière, ce qu'on ne conseille pas. Mmh. Hein ? Alors, on a bien conscience que 100 euros, ça peut être important pour certains budgets. Donc, ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'il y ait une mobilisation populaire assez large. Pourquoi pas imaginer des associations qui se montent ou qui existent déjà et qui récoltent la mise que chacun peut mettre à la mesure de ce qu'il a ou de ce qu'il est. Et puis c'est l'association qui peut investir dans la foncière aussi, prendre des parts, et puis comme ça on est tous quand même, on participe tous quand même à l'achat de terre pour passer en bio, même si on n'a pas forcément les moyens de s'acheter plusieurs actions à 100 euros.
Alors Gaël, on rappelle les objectifs, c'est de sortir les terres agricoles de la spéculation foncière, c'est d'aider les agriculteurs à s'installer en enlevant donc le poids d'acquisition du foncier, qui est évidemment extrêmement lourd.
Tout à fait.
Et puis quand même, le bio.
Exactement. On n'a que 2% de surface agricole en bio aujourd'hui. Le Grenelle, l'environnement fixe un niveau bien plus élevé. Je crois que c'est aux alentours de 20% d'ici une petite dizaine d'années. Mmh. Donc nous, on est prêts à installer aussi des gens qui ne sont pas tout de suite en bio, mais qui s'engagent à avoir une démarche vers le bio.
Voilà, donc ça veut dire que l'on peut faire des choses indépendamment, on va dire, des circuits traditionnels. Et puis, bah, vous avez relevé les manches. Et donc, on mettra bien sûr le site de Terre de Liens, La Foncière, sur le site de CO2 Mon Amour. Voilà. Un grand merci à vous, Gaël Ouesdon, puis à très bientôt.
Très bien, merci. Et puis, on investisse tout solidairement et puis on va y arriver, il n'y a pas de raison.
Voilà, il y a des gens qui font différemment aussi dans ce pays, un petit peu loin de la pensée unique. C'est quand même assez agréable. Alors, je vous propose maintenant de faire un tout petit peu de marche à pied. Encore une initiative positive. On va s'intéresser à nos enfants avec Séverine Millet. Séverine Millet, bonjour.
Bonjour, Denis.
On va parler avec vous de Pédibus. Grâce à votre ouvrage aux éditions Minerva qui s'appelle « La stratégie du colibri ». Et on rappelle que ce petit oiseau est assez génial parce qu'un jour, dans une forêt qui était en feu, eh bien, le colibri est parti avec sa petite goutte dans le bec pour essayer d'éteindre l'incendie. Et il ne l'a pas fait tout seul. Et le petit colibri, il a dit, moi je fais ma part. Et c'est ça l'idée de votre livre, hein, Séverine, c'est de se dire que chacun apporte sa pierre et ça devient extrêmement payant.
Absolument. Et le petit colibri, il dit, je fais ma part, mais il dit, en plus, si je le fais avec les autres animaux de la forêt, l'effet est démultiplié.
Et ce que vous nous présentez, ce sont des stratégies donc, qui sont collectives. Parlons donc effectivement de ce pédibus, autrement dit l'autobus pédestre. Des enfants vont à l'école, il y a des accompagnateurs, il y a des circuits avec arrêt. Et là, l'idée, c'est quand même aussi un peu de se désintoxiquer de la voiture, parce que c'est énorme ça encore.
Oui, à peu près 20% des trajets en voiture concernent les accompagnements des enfants à l'école. Mmh. Donc c'est vraiment important. Ça a des conséquences pour les enfants, puisqu'on a constaté en fait que lorsque les enfants commencent vers l'âge de 10-11 ans à aller tout seul à pied à l'école, il y a une recrudescence très importante d'accidents. Simplement parce qu'ils n'ont pas été éduqués à la circulation routière.
Oui.
Alors que le pédibus a, ça c'est un des avantages, c'est justement l'éducation à la sécurité routière.
C'est l'éducation au risque qui est normale dès que, de toute façon, on a un gamin. Comment on s'y prend? Ce sont d'abord des parents qui se réunissent, des parents d'élèves. En général, ça part de là ou
ça... Généralement, ça part de là. C'est souvent les parents. Je conseille de faire une petite enquête à l'école, mm-hmm. auprès des parents, mais aussi auprès des enseignants qui peuvent être des acteurs éducatifs très importants. Et après la petite enquête, de monter un groupe pour monter ce projet qui est vraiment, en fait, simplissime.
Parce que ça peut réunir, en fait, 6, 8, 10 gamins, hein, pas plus.
Voilà, et ouais. Puis jusqu'à même 36, 40. Alors, généralement, quand c'est une petite dizaine d'enfants, il suffira d'avoir deux adultes pour accompagner, sécuriser le trajet. Mm-hmm. Et les accompagnateurs sont soit des parents, soit des personnes âgées. On a vu aussi des retraités qui prenaient plaisir à accompagner les gamins.
Alors, bon, on va vous dire, oui, mais question assurance. En fait, il faut avoir une assurance responsabilité civile, une assurance scolaire de base, hein, c'est-à-dire celle qui couvre le trajet domicile-école.
Complètement, hein, c'est l'assurance habituelle. C'est la responsabilité des parents, sauf si évidemment on se rend compte que sur le trajet, un des accompagnateurs a commis une faute.
Oui, d'accord. Enfin bon, jusqu'à présent, on n'a pas eu quand même des choses extrêmement violentes de ce côté-là.
Voilà. Non, par contre, ce qui est vraiment fondamental, et ça, ce point le soulève, c'est que ça ne se fait pas qu'entre parents et enfants. Alors d'abord, il faut informer l'école. On informe l'école simplement parce que les professeurs ne laissent pas partir les enfants comme ça.
Bien
donc
sûr.
Il faut déjà prévenir, donner une liste des enfants qui sont concernés. Et puis parfois, il va falloir un petit peu organiser les abords d'école pour sécuriser les arrivées et les départs. Donc ça peut se faire avec les enseignants, mais ça peut se faire avec la police municipale.
Donc il faut bien cartographier les lieux, on dessine sa ligne, on la fait, on va dire, valider. Alors il y a des arrêts de pédibus, hein, comme ça, qui sont matérialisés par des panneaux que peuvent d'ailleurs confectionner les enfants. Et puis alors, on se dit, ils vont faire 12 km. Non, c'est pas ça. On voit la moyenne, c'est quoi? C'est entre 500 mètres et 1000 mètres?
Oui, à peu près. Il faut vraiment que ce soit accessible à des petits-enfants. Quand ils passent l'âge de 8-9 ans, si les trajets sont un petit peu plus long, on peut mettre en place un cyclobus. C'est le même principe, mais avec des vélos.
Le retard à l'école, non. En général, les gamins sont vraiment à l'heure, sans aucun problème.
Moi, c'est extraordinaire. En fait, l'expérience montre que les enfants sont à l'heure, voire même très en avance. C'est même difficile de leur faire prendre leur petit déjeuner. Très simplement parce qu'en fait, le pédibus, c'est retrouver les copains,
eh oui.
C'est prendre l'air, ils marchent pendant un quart d'heure, 20 minutes, ils arrivent tout frais à l'école.
Activité physique, ce qui veut dire qu'avec les problèmes d'obésité, c'est pas négligeable.
Bah oui, quand on fait trajet deux fois par jour, voire quatre fois, pour les enfants qui rentrent déjeuner à la maison le midi, c'est non négligeable. On multiplie ça par le nombre de jours d'école dans la semaine.
Et puis les enseignants se sont rendus compte qu'ils étaient plus attentifs, qu'ils étaient plus calmes parce qu'ils s'étaient oxygénés.
Voilà, et puis parce qu'ils avaient bougé.
Bon, bien sûr, ça marche. On a des exemples intéressants.
Alors, on a des exemples sur Caen, sur Brest, sur Lyon, où il y a quand même 50 écoles de la communauté urbaine lyonnaise hein, qui ont mis en place des pédibus. Mmh. 200 écoles en Provence. Oui. Près de La Rochelle, il y a la petite commune de Dompierre-sur-Mer qui a testé le pédibus récemment lors de la journée sans voiture, oui. en fermant la circulation sur 3 itinéraires et le succès était garanti. Il y a des communes qui organisent des fêtes annuelles aussi pour marquer le coup et pour montrer l'importance que les adultes en fait, donnent au pédibus. Mmh. pour féliciter les enfants, parce que c'est une vraie démarche. Et puis, il y a aussi certaines lignes de pédibus qui font accompagner le pédibus par un clown ou par un policier.
D'accord. Oui, c'est pas le même. Hein. C'est, en général, c'est pas la même chose. Merci à vous, Séverine Millet. Et puis, donc, je vous renvoie à la stratégie du colibri aux éditions Minerva. Et là, vous verrez. Donc, pour la planète, passons à l'action. Si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, vous avez tout ce chapitre qui est donc dédié au pédibus. À bientôt, Séverine.
À bientôt, merci.
Incroyable, quand même. Une émission qui veut faire marcher les enfants. Il faut se plaindre. Mais oui, absolument, il faut se plaindre. J'ai à signaler que la Maïf, quand même, très grosse mutuelle, est très en avance sur ce domaine-là. Donc, pour assurer aussi les pédibus, ça, vraiment, ils savent faire. Eh bien, écoutez, on va changer un tout petit peu de registre, n'est-ce pas? Allez, c'est parti.
C'est bien vendu, ces gamins, s'ils sont bravés.
Oh, oui, c'est madame Nilo.
Et en ce moment, il y a des fêtes. Il y a la fête de l'école privée, il y a la fête de l'école publique, il y a la fête votive. On n'arrête pas de manger des brioches. Et bonjour, les enfants.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'il arrive?
On a les brioches de l'école publique de Barjac.
Et est-ce qu'elles sont bio?
Oui, elles sont bio.
Et ça veut dire quoi, bio?
Pas traité.
Pas traité, bravo.
Ben oui, donc on va vous parler d'un film qui s'appelle « Nos enfants nous accuseront » qui est signé Jean-Paul Jo avec la production aussi de Béatrice Jo, son épouse. Alors Jean-Paul, je sais que vous êtes dans un train, donc on fait vraiment du direct. Jean-Paul, bonjour à vous.
Bonjour, je fais un travelling dans notre beau pays, je m'en vais en Bretagne à Redon.
Et d'ailleurs, ben voilà.
Je suis l'acteur du film qu'on vient d'entendre, le maire de Barjac, Édouard Chollet.
Alors justement, en quelques mots, qu'est-ce que vous avez voulu faire? En même temps, c'est un cri d'alarme, c'est un engagement personnel. Il ne s'agit pas de culpabiliser les gens une fois de plus, mais quand même de dire qu'est-ce qui ne va pas. Et vous avez parlé de Barjac, donc là nous sommes dans le département du Gard. Et qu'est-ce que vous avez tourné à Barjac?
J'ai tourné un film qui fait 1h47 pendant une année scolaire. Et principalement autour de cette décision qui a été prise par le conseil municipal de changer la restauration collective du conventionnel en bio. Voilà. Donc j'ai suivi cette expérience et pour montrer que, à partir de cette prise de conscience du village et notamment du maire Édouard Chollet, on peut vraiment avancer et essayer de préserver notre planète de façon très, très positive.
Alors, vous avez des témoignages qui sont forts. Je veux dire par là que dans le monde paysan, c'est souvent un monde de taiseux, comme on dit dans le pays de Caux, parce que ce n'est pas toujours facile, évidemment, de s'exprimer. Quoi. Et donc là, vous avez réussi à faire parler des gens qui, malheureusement, sont les premiers cobayes de ces pesticides.
Sont les premiers cobayes,
les victimes.
Les premières victimes. Et leurs enfants aussi sont les victimes. Et j'ai tourné pendant un an. Ça veut dire que les gens, quand on reste dans leur univers pendant un an, vous font confiance. Et puis on apprend à les connaître. Donc ils se sont livrés devant la caméra d'une façon simple et directe. Et effectivement, malheureusement, le film constate que ces agriculteurs sont des victimes et qui sont souvent tous malades et leurs enfants sont malades. Mais donc la solution, c'est de changer notre alimentation qui fera changer automatiquement le mode d'agriculture.
Et donc ce titre quand même qui est fort, hein, nos enfants nous accuseront, certains vont vous dire vous faites du catastrophisme, mais ça veut dire que derrière on sait qu'on a empoisonné quand même la terre et l'eau, quand même un sacré niveau aujourd'hui avec des produits toxiques, donc les aliments aussi par voie de conséquence, après on les ingère, mais mettons aussi en regardant ce film, on se rend compte qu'il y a quand même une ouverture et que cette commune a complètement changé parce qu'il y a eu aussi un premier magistrat qui a voulu faire changer les choses.
C'est un premier magistrat avec son conseil municipal et les gens, les parents ont suivi, mais surtout les enfants ont suivi. Ce sont des enfants de CM1, CM2 qui ont très bien compris et qui ont pris eux-mêmes très très vite l'importance de leur action et de ce changement. Et ça, c'est très encourageant.
Et puis, il y a aussi les cuistots. Il y en a un qui dit qu'il n'a pas envie de redevenir un ouvreur de boîte. Hein, il a envie de refaire la cuisine, celui-là.
Exactement. Cette expérience n'est possible que si les cuisiniers, bien sûr, sont concernés et si ils ont décidé, eux aussi, de prendre parti pour ce changement d'alimentation. Et puis, ce film aussi casse une chose très importante, c'est-à-dire le bio égale bobo. Barjac est une municipalité où 63% des fonds non imposables. Ouais. 63%. Donc ce film casse cette image.
Voilà, et donc ça donne vraiment envie. Vous avez aussi une mère qui dit « Avant, le frigo était bourré de superflu. Aujourd'hui, on se sent quand même moins con. » Voilà.
Et puis, c'est aussi, Denis, c'est un hommage à la nature et un hymne à la vie. Ouais. C'est un hymne à la vie et que ces enfants qui, demain, moi, je pense, de toute façon, je suis désolé de le dire, mais c'est vrai, ça sera, ils nous accuseront, mais ces enfants, aujourd'hui, je voulais leur rendre un hommage et rendre aussi un hommage à la nature et qu'on peut encore, aujourd'hui, changer quelque chose et enrayer ce réchauffement climatique, entre autres et principalement par notre alimentation qui influe, vous savez, de plus de 30% sur le réchauffement climatique.
On revient sur cette métaphore, donc la part du colibri où chacun évidemment peut faire quelque chose. Il faut aussi évidemment des volontés politiques qui soient fortes parce que tout seul on ne peut pas non plus tout faire. Mais ça donne aussi, à la fois c'est un bon cri d'alarme et en même temps ça donne de l'espoir. Nos enfants nous accuseront. Si vous voyez ce film passer, surtout n'hésitez pas. Je vous souhaite un beau week-end Jean-Paul et puis à très bientôt.
Merci à vous, merci.
Très rapidement aussi sur Arte, mardi 18 novembre à 22h20, Énergie, le futur à contre-courant par Marie Éloin. C'est aussi un très beau témoignage donc sur le thème de l'énergie en Europe. Donc mardi 18, Arte, 22h20, le futur à contre-courant. Arnaud Caillé, Loïc Asselot étaient aujourd'hui à la technique. Merci à Sophie Ledoré, à Jean-Christophe Pinaza, mon ami d'Annecy, et Xavier Pessugia qui réalisait cette émission.